Ma communication porte ici aujourd'hui sur l'analyse des facteurs de vulnérabilité associés au statut de victime d'inondation ou de ruissellement à l'échelle du ménage, une approche interdisciplinaire entre sociologie et géographie, à partir du cas de d'Agbekwa et de Palmeret. Alors, en termes de contexte, il faut dire que la ville d'Abidjan est une ville très arrosée. Nous avons une pluviométrie moyenne annuelle de 1739 mm. Et les pluies sont à caractère extrême, dont la quantité journalière peut dépasser les 100 mm. Et cette situation engendre une recrudescence des inondations à Abidjan. On peut dénombrer 12 inondations à Cocody, 10 à Yopougon et 7 à Abobo de 1996 à 2018. Et cette situation alarmante rend la population de plus en plus vulnérable au vu des dégâts importants. On peut dénombrer 80 000 personnes qui sont menacées par les inondations à Abidjan, dont 40 000 à Cocody et 12 500 à Abobo. Et les inondations de 2018, par exemple, ont fait 19 morts et des dégâts matériels. Et c'est vraiment dans ce contexte que nous avons entamé cette étude dans le cadre du projet Evidence. Il s'agit d'analyser les facteurs de vulnérabilité associés. Mais spécifiquement, dans cette communication, je tenais un peu à montrer les difficultés méthodologiques rencontrées dans cette approche interdisciplinaire avant d'aboutir à quelques résultats. Il faut dire que je travaille sur deux zones d'études. Agbekwa, qui est un quartier de la commune d'Abobo, et cette commune est située tout au nord de la ville d'Abidjan. Et le quartier est Palmeret, qui est un quartier de la commune de Cocody, qui est elle située un peu à l'est de la ville d'Abidjan. Et comme je le disais, cette communication est vraiment basée sur les difficultés méthodologiques rencontrées dans l'approche interdisciplinaire, bien que je vais montrer quelques résultats. Alors, comme je le disais, les difficultés, il s'agit d'abord des difficultés de définition dans le cadre de notre projet. Comme Regeza le disait, quand on cherche à étudier la vulnérabilité, on se aide d'emblée à la pluralité de définitions. Et cette définition provient de la construction interdisciplinaire de ce concept. Il faut dire que dans le cadre de notre projet, nous avons des géographes et des sociologues. Et la définition selon les géographes qui travaillent sur le risque est défini comme la conjonction de l'aléa et de la vulnérabilité, des enjeux. Et dans ce cadre-là, la vulnérabilité est fonction uniquement des enjeux exposés à l'aléa. Et dans ce cas, on parle alors d'enjeux vulnérables. Et quand on parle ici d'enjeux, il y a deux types d'enjeux, les enjeux physiques et les enjeux humains. Et les enjeux physiques ici, il s'agit des enjeux physiques matériels. Dans ce cadre, on parle de vulnérabilité physique. Et quand il s'agit de l'homme, là, on parle de vulnérabilité sociale et est mesurée par les caractéristiques socio-démographiques. On comprend alors que les éléments physiques naturels, c'est-à-dire les pentes, l'altitude, sont dissociés de la définition de la vulnérabilité et sont considérés comme des indicateurs de l'aléa. Et ce cadre conceptuel résume un peu la définition selon les géographes dans le cadre de ce projet. On peut voir que le statut de victime est associé à la fois à des facteurs de vulnérabilité physique, mesurés ici par la qualité du bâti ou des infrastructures telles que les canalisations et les facteurs de vulnérabilité sociale mesurés ici par les caractéristiques socio-démographiques. Il faut dire que la vulnérabilité ici désigne les dommages et les facteurs d'endommagement. Et les victimes, il s'agit des ménages ayant subi des dommages aussi bien matériels que corporels. Alors, selon le point de vue des sociologues, on devrait intégrer l'exposition, c'est-à-dire les éléments physiques naturels, dans la définition de la vulnérabilité. Pour eux, l'on devrait définir la vulnérabilité comme fonction de la vulnérabilité physique, c'est-à-dire le degré d'exposition, et de la vulnérabilité sociale. Dans ce cas, la vulnérabilité physique désigne ici le degré d'exposition et se mesure par les indicateurs physiques tels que la pente, l'altitude et le niveau d'eau. Quant à la vulnérabilité sociale, elle désigne les caractéristiques sociodémographiques des ménages et les caractéristiques des enjeux physiques. On comprend alors que ce qui est aléa pour les géographes est vulnérabilité physique pour les sociologues du projet, et ce qui est vulnérabilité physique pour les géographes est vulnérabilité sociale pour les sociologues. Et cela a été l'une des complexités pour moi dans ce travail interdisciplinaire. Et on résume ici un peu la définition voulue par, selon le point de vue des sociologues, qui pensent que le statut de victime est associé à la fois à des facteurs de vulnérabilité physique, mesurés ici par la pente, ou d'autres facteurs, d'autres éléments physiques, et la vulnérabilité sociale, mesurée ici par les caractéristiques sociodémographiques et les caractéristiques des enjeux tels que le bâti. Donc, dans ce cas, le compromis adopté pour moi, c'est d'adopter la définition, étant donné que je suis en géographie, la définition des géographes, mais de façon parallèle, tester la définition voulue par les sociologues dans un article que nous sommes en train de travailler actuellement. Mais je vais présenter quelques résultats. Il y a aussi eu un désaccord à l'entame du projet sur la méthode d'enquête de ménage. C'est-à-dire, selon les géographes, on devrait mener des enquêtes sur les zones proprement touchées par l'aléa. Et par contre, les sociologues, on devrait enquêter sur les zones d'étude, toute la zone d'étude, au lieu de se concentrer uniquement sur la zone directement touchée par l'aléa. Cela permettrait de connaître les différentiels sociaux entre les ménages situés dans les zones directement touchées par l'aléa et les ménages qui ne le sont pas. Et finalement, nous avons enquêté sur toute la zone d'étude, comme on peut voir la répartition spatiale des ménages enquêtés. Et nous avons enquêté 252 ménages à Agbekwa et 251 à Palmeraie. Et ici, il faut dire que la question relative à notre variable dépendante est la suivante. Lors de cet événement le plus spectaculaire depuis 10 ans, quel dommage avez-vous subi? Et nous avons fait aussi des analyses multivariées, notamment la régression logistique au seuil de 5%. Bon, comme je le disais, je vais montrer quelques résultats. Et notre enquête a montré que 39,44% des ménages enquêtés à Palmeraie ont été victimes des inondations durant les 10 dernières années, notamment le plus remarquable. Et ces ménages sont les ménages en rouge, essentiellement axés dans la zone centrale. Et à Agbekwa, il s'agit plutôt de 13,49% des ménages qui ont été victimes. Alors, ce tableau montre un peu l'analyse multivariée à l'aide de la régression logistique. Selon la définition des géographes du projet. Et les résultats, selon cette définition, montrent qu'à Palmeraie, la distance par rapport à la grande canalisation, qui est vue comme facteur de vulnérabilité physique, et niveau d'éducation du chef de ménage, qui est vu comme facteur de vulnérabilité sociale, sont associés au statut de victime. À Agbekwa, le niveau de résistance, c'est-à-dire la qualité du bâti, vu comme facteur de vulnérabilité physique, et le sexe du chef de ménage, vu comme facteur de vulnérabilité sociale, sont associés au statut de victime. Ici, lorsqu'on prend la définition voulue par les sociologues, on se rend compte qu'à Palmeraie, la pente, qui est un élément physique naturel, considéré comme facteur de vulnérabilité physique, et la distance par rapport à la grande canalisation et le niveau d'instruction du chef de ménage, considérés tous deux comme des facteurs sociaux, sont associés au statut de victime. À Agbekwa, la qualité du bâti et le sexe du chef de ménage, considérés comme des facteurs sociaux, sont associés au statut de victime. En conclusion, cette communication a permis de mettre en exergue la complicité du travail interdisciplinaire et Le constat personnel que j'ai fait, c'est qu'il est un peu difficile d'avancer dans le travail interdisciplinaire sans compromis. Je vous remercie.
J'aime beaucoup la conclusion, et notamment sur le fait que c'est compliqué de faire de l'interdisciplinarité sans compromis. Donc moi, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu justement à quel endroit il y a eu des compromis et comment ça s'est passé pour que ça puisse se faire, parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant, parce que là, je trouve qu'on touche le bras du sujet. Et pour du coup, illustrer cette question-là, nous, avec Michel et d'autres personnes, on travaille avec des humains qui souhaitent coopérer, collaborer, mais ils voient dans la collaboration le fait que, en fait, il suffirait que tout le monde m'écoute, collabore avec moi, avec ma manière de penser, pour que du coup le projet soit réussi. Et tout à l'heure, il y avait une petite question sur comment ça se passe avec des chercheurs. Ça m'est arrivé d'animer des équipes de chercheurs. Assez souvent, quand tu lui prends individuellement, le projet, ça va être facile, il suffit que tout le monde... Enfin, moi, j'ai vraiment une méthode qui est vraiment très, très calée. Il suffit que tout le monde écoute ma méthode et ça va bien se passer, ce projet. Mais, sauf que tu les prends tous individuellement, ils sont tous convaincus que leur manière de penser, ça peut être le centre du monde. Donc, il y a un vrai travail de compromis. Donc, voilà, d'où l'intérêt de cette question-là. Et du coup, nous, ce qu'on observe, enfin, ce qu'on essaie beaucoup de chercher, c'est ce qu'on appelle le partage sincère et l'écoute transformatrice. Est-ce que moi, quand je dis des choses du haut de ma discipline, est-ce que je partage sincèrement mon idée au risque que les personnes s'en emparent et la transforment? Et l'écoute transformatrice, est-ce que j'écoute vraiment ce que dit l'autre et je suis prêt à transformer ma pratique en fonction de ce que dit l'autre? Et donc, c'est vraiment un élément d'autre. Est-ce que du coup, par rapport à cette notion du compromis, est-ce que vous pourriez illustrer, voir à quel endroit ça a râpé, quelles étaient les astuces pour que ça puisse se passer? Merci.
Merci beaucoup pour votre question. Bon, je ne sais même pas si le thème même, compromis, est approprié, mais je l'ai utilisé et je vais expliquer. Voilà. Parce que, comme je le disais, moi je suis géographe à la base et le projet était composé de deux entités, géographe et sociologue. Naturellement, des points de vue différents en termes de définition. Bon. Le compromis, c'est que quand on approche les géographes, on a une définition claire de ce que c'est la vulnérabilité et le risque. Bon, ça, c'est la base. Bon. Les sociologues ne sont pas géographes à la base, chez nous. Voilà. Du coup...
Quand ils sont géographes, c'est mieux, c'est ça?
Ah bon, voilà. La raison pour laquelle je dis, est-ce que le thème même compromis est adapté ici? Pour être clair, c'est, finalement, j'ai pris une décision personnelle de prendre la définition selon les géographes et discuter avec les sociologues pour vraiment laisser ce pan. Parce qu'à un moment donné, j'étais bloqué, je n'arrivais plus à avancer, parce qu'à un moment, il faut une définition claire pour avancer dans le travail. Et c'était un peu en stand-by. Parce que quand on discute de façon individuelle, chacun a son point de vue et chacun a tendance à vraiment à mettre en avant ce qu'il pense de cette définition. Et les sociologues avaient déjà un cadre conceptuel. Les géographes aussi en ont. Donc du coup, j'ai pris simplement la décision de prendre la définition des géographes, étant donné que je suis géographe. Donc raison pour laquelle je dis, est-ce que c'est un compromis? Mais en tout cas, voilà. Bon. Donc voilà un peu. Voilà. Par contre, dans la méthodologie d'enquête, bon, je pense que ça a été un peu celle des sociologues, comme je l'ai dit dans la méthodologie d'enquête, parce qu'à la base, on avait l'habitude d'enquêter uniquement les zones touchées directement par les inondations. Bon, d'un point de vue sociologue, ils ont pensé qu'il était important d'enquêter sur toute la zone d'étude, raison pour laquelle on a fait une répartition spatiale un peu aléatoire sur la zone d'étude, prenant en compte à la fois les zones touchées par les inondations et naturellement les zones qui ne sont pas touchées par les inondations pour voir un peu quelle différence il y a pour comprendre pourquoi tel ménage est inondé, est impacté et l'autre du point de vue sociologique, voilà, et l'autre n'est pas impacté. Donc dans ce sens-là, on a pris un peu la méthodologie d'enquête des sociologues. Mais ce qui est de la définition, bon, c'est une définition, une décision personnelle que j'ai prise bien évidemment, je me suis entretenu avec les sociologues pour vraiment, voilà. Donc, voilà un peu ce qui a été.
On va prendre encore une question dans la salle et après on prend les questions.
Bonjour, Serge Schwartzmann, je suis géographe.
Oui.
En changeant d'échelle, en fait, n'étant plus simplement sur les deux quartiers que vous étudiez, on a une autre forme de vulnérabilité que vous n'évoquez pas, qui est la vulnérabilité sociétale. C'est-à-dire que les inondations, elles vont désorganiser aussi toute une zone, et donc les échanges qui ne vont pas pouvoir avoir lieu de façon normale, les déplacements, etc. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Je n'ai pas bien compris la question.
La vulnérabilité sociétale. C'est-à-dire, en changeant d'échelle, en étant à une échelle plus large, on va avoir une désorganisation du fait des inondations. Et donc on n'est plus dans la vulnérabilité physique ou la vulnérabilité sociale, mais on est dans une vulnérabilité plus large de la société d'Abidjan, un peu plus large, qui est désorganisée par le fait qu'on ait des inondations à répétition dans certaines zones du territoire.
Ok, merci beaucoup. Bon, pour être honnête, je n'ai pas abordé ce point dans mon travail. Je pense que c'est intéressant et je parle sous le contrôle aussi de mon encadré qui est ici présent. Bon, je n'ai pas abordé ce point, mais je pense que naturellement il y a eu des organisations lors des inondations à Abidjan du fait que déjà il y a des familles qui sont disloquées, disloquées mais séparées du moins. Voilà. Et lors des inondations, on a des familles qui, bien avant même à l'approche des inondations, il y a des familles qui sont obligées d'aller soit confier des enfants ailleurs ou alors un peu dans ce sens. Et même en termes de travail aussi, il y en a qui témoignent qu'ils ont des difficultés à aller au travail lors des inondations. Donc je pense que dans ce sens-là, il y a une désorganisation un peu de la société. Donc ça impacte naturellement le transport, la vie sociétale en famille. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais bon, après on pourra discuter pour que vous me donniez un peu plus d'expérience dans ce cadre-là. Et voilà, il y a mon professeur qui veut intervenir. Voilà.
Si la parole devait être donnée, en fait, c'est juste pour dire quoi? Que dans le cadre de ce travail, l'échelle a été très fine. C'est même pas une échelle où l'espace est large, c'est le ménage. Vous voyez? C'était pour voir si, à pouvoir un peu le niveau de vulnérabilité des ménages qui ont été victimes de ces inondations-là. Donc, vous voyez que quand vous prenez le ménage, ce n'est plus tellement à l'échelle de l'espace large, mais quand vous prenez un ménage, qu'est-ce qui fait que ce ménage-là a été victime ou non de l'inondation? Donc, c'est un peu ce niveau d'échelle qui a fait que l'aspect global, qui est, comme il a dit, la désorganisation au niveau infrastructurel et tout, n'a pas été pris en compte. Merci.
Merci. Justement, je voulais un peu rebondir sur, mais ça tombe bien parce que vous en parlez, vous nous avez défini effectivement la notion de vulnérabilité. Il y a toutes ces questions-là qui sont finalement comment on étend la notion de vulnérabilité, notamment en sciences humaines et sociales, parce qu'il y a d'autres définitions qu'on pourrait encore appeler à la notion de vulnérabilité qui au départ vient du champ de la santé, ça n'a pas été dit. Mais, voilà. Moi, c'est plus sur la question de la définition de ménage victime, du coup. C'est-à-dire, finalement, quels sont les acteurs qui qualifient ces ménages atteints d'inondation de ménages victimes? Est-ce qu'il y a des compensations du fait d'avoir été inondés? Enfin, voilà.
Et s'il y a des compensations?
En fait, plus sur la reconnaissance sociale des victimes et là, du ménage victime d'inondation. Enfin, je relisais Didier Fassin sur ces questions-là. Et finalement, est-ce que le fait, enfin, est-ce qu'il y a eu inondation d'un point de vue du ménage ou pas? Comment est-ce que c'est reconnu ou non? Et est-ce qu'il y a, enfin, comment ensuite on reconstruit une fois qu'il y a eu, je sais pas, qu'il y a eu inondation? Enfin, voilà, qui sont les acteurs, finalement, sur votre terrain, qui définissent la question des ménages victimes ou pas victimes d'inondations.
Si j'ai bien compris la question, c'est de savoir comment on a défini qui est victime, qui ne l'est pas.
Qui va définir quelles sont les victimes ou non sur votre terrain?
Bon, si
en
j'ai bien compris la...
je veux dire...
Bon... Si j'ai bien compris la question, peut-être ma réponse permettra de, voilà, de donner... dans ce cadre-là, comment on a défini la victime, c'est qu'on a été interrogé les ménages. Et selon la définition que nous avons prise, c'est qu'un ménage qui dit qu'il a été impacté, c'est-à-dire il a, que ce soit un dégât matériel ou corporel, on le classe comme victime. C'est comme ça, nous, on a défini, et je me suis basé sur des définitions des articles pour définir ce que c'est une victime dans ce cadre-là. Donc, en gros, c'est celui qui déclare avoir été, avoir perdu un bien aussi infini que ce soit, que ce soit des dégâts matériels ou corporels, alors je le classe comme victime. C'est comme ça, j'ai défini ce que c'est la victime. Bon. Faire intervenir d'autres acteurs dans la définition de des victimes, non, je ne l'ai pas fait.
Vous savez, au niveau de nos pays, quand il y a par exemple une catastrophe naturelle, que ce soit de l'inondation, que ce soit un glissement de terrain ou un mouvement un éboulement de terrain, parce que la plupart du temps, ce sont les aléas que nous subissons le plus à Abidjan. Si vous voulez, les victimes, ce sont tous ceux qui ont été impactés d'une manière ou d'une autre. Que ce soit des individus, que ce soit une structure, par exemple, comme un centre de santé ou bien une école qui se trouverait dans la zone impactée, ce sont là les victimes. Et les victimes, donc, c'est des gens qui ont subi des dommages d'une manière ou d'une autre. Et généralement, il y a des structures comme la Croix-Rouge, c'est ça, hein, la Croix-Rouge, voilà, qui identifie les victimes. Quand la Croix-Rouge identifie les victimes, par exemple, lorsqu'il parlait de tel nombre de décès à tel endroit, ainsi de suite, on reçoit un tableau. On n'a pas la liste des victimes, mais on a le nombre des victimes, c'est-à-dire dans telle zone ou telle zone, tel nombre de personnes ont été impactées, soit physiquement, soit matériellement. Et ce sont toutes ces personnes qui ont subi d'une manière ou d'une autre un dommage que nous classons dans les victimes.
Et du coup, est-ce qu'après, il y a une rétribution, je ne sais pas, d'un point de vue étatique ou de la ville par rapport aux personnes qui ont été victimes d'inondations ou
des aides?
C'est simplement un recensement, en fait.
Des aides?
Non. Ouais. La réaction de l'État, comme la réaction des ONG, comme la réaction des mairies, ce sont des aides. C'est-à-dire que temporairement, on va délocaliser les populations qui sont victimes. On les envoie soit dans des structures scolaires en attendant que l'eau se retire et puis les populations reviennent à leur place. D'autres personnes parfois, parce que parfois il y a des maisons qui sont complètement cassées et à partir de ce moment-là, il y a des populations qui sont relogées ailleurs. Alors, l'État dégage un montant et on dit chaque victime pour se reloger a droit par exemple à 150 000 francs, ça fait 150 000 francs. En euros, ça va nous faire combien? Ça fait autour de 200 euros. Voilà. Et quand nous, on regarde, par exemple, le niveau d'urbanisation à Abidjan, 150 000 francs ne peut pas permettre à quelqu'un de se trouver une bonne maison dans une zone convenable. Donc, la plupart du temps, en dehors de Cocody, parce que Cocody, c'est un quartier résidentiel. Et en tant que quartier résidentiel, ce sont les cadres qui prennent les décisions même au gouvernement, qui la plupart du temps habitent ce quartier-là. Donc leur réaction est complètement différente et le comportement de l'État vis-à-vis de ces populations-là est également différent. par rapport aux populations d'Abobo qui sont le bas peuple, où très souvent, ben, quand on leur fait quelque chose, c'est comme si l'État est généreux. Mais à Cocody, ce n'est pas de l'État généreux parce qu'ils ont acheté un terrain très cher, ils ont construit chèrement, ce sont eux qui sont dans les bureaux où ils prennent les décisions. Donc le comportement est complètement différent selon que les catastrophes touchent les gens de Cocody ou les gens d'Abobo. Voilà.
Merci.
Merci bien.